Merci beaucoup. Je tiens en premier lieu également à remercier le professeur Rublin pour son invitation à prendre part à ce colloque et pour lequel donc j'ai proposé de reconsidérer d'une certaine façon les origines de l'étude des grottes ornées et de sa place dans l'archéologie préhistorique. Alors en fait, c'est à la charnière des 19e et 20e siècles que l'étude de l'art pariétal, on va appeler ça comme ça, s'affirme comme un domaine de recherche à part entière. Et on voit que le processus se déroule à la faveur de trois vagues de découvertes et à un moment particulier de l'histoire de l'archéologie préhistorique, puisque celui-ci est marqué, et là j'emploie les termes proposés par Bruce Trigger, historien de l'archéologie, donc c'est le moment qui est marqué par un basculement de ce qu'il appelle l'archéologie évolutionniste vers une archéologie qui s'appelle historico-culturelle. Et la reconnaissance de l'art pariétal, elle accompagne ce mouvement, elle y participe, mais je dirais au même titre que d'autres débats parmi lesquels, qui portent sur le paléolithique et parmi lesquels, notamment, on va retrouver la classification des industries ou la question des sépultures. C'est donc, en fait, un mouvement général qui affecte en profondeur les concepts de la préhistoire et qui amène vers ce que, par exemple, moi j'ai appelé la découverte de la complexité, d'autres collègues ont proposé d'autres appellations, et ce processus s'incarne dans deux grandes ruptures. D'une part, c'est le passage d'une colonne évolutive, et Jean-Jacques Hublin l'a évoqué ce matin à propos de Gabriel de Mortier, qu'on va recroiser dans quelques minutes. Donc, passage d'une colonne évolutive à des notions spatio-temporelles, et par ailleurs, l'ouverture à la dimension symbolique de la pensée de l'homme paléolithique à travers ce qu'on pourrait appeler le fait funéraire ou peut-être le fait pariétal, le fait artistique. Et la reconnaissance de l'art pariétal joue donc un rôle non négligeable dans cette refonte conceptuelle, même si, évidemment, c'est replacé dans le processus d'ensemble qu'elle va trouver son sens et qu'elle doit être considérée, ce que, évidemment, je ne ferai pas aujourd'hui. Pourtant, et je dirais par certains traits, et c'est ça qui va m'intéresser, c'est ça que je vais essayer c'est à partir de ça que je vais essayer de réfléchir, cette reconnaissance, elle va au-delà, je dirais, des autres débats, et elle semble véritablement marquer un virage dans les changements que l'archéologie préhistorique connaît au tournant du XXe siècle. En fait, si on considère les autres débats, les principaux débats qui accompagnent ce que j'appellerais la disqualification de l'archéologie évolutionniste, on va voir qu'ils procèdent avant tout d'une réinterprétation de données qui sont présentes et validées dans le débat préhistorien depuis les origines de ce débat. Certains éléments, par exemple, comme les outillages de pierre ou d'os, sont considérés depuis les années 1820 comme des équivalents géognostiques. C'est un terme qui est proposé par les géologues du Midi, ce qu'on appelle les géologues du Midi de la France dans les années 1820, donc des équivalents de la présence humaine. Et ils vont donc constituer des éléments de preuve reconnus à l'appui de la démonstration de l'existence de l'homme fossile et évidemment, lorsque leur observation est réalisée en stratigraphie, cela constitue la démarche fondatrice de la connaissance et de la discipline qui est à ce moment-là, évidemment, avant tout conçue comme une histoire naturelle de l'homme. De la même façon, l'hypothèse des sépultures paléolithiques, eh bien, elle est aisément acceptée dans un premier temps. Elle est représentée dans l'illustration des ouvrages de vulgarisation. On retrouve une photo de l'ouvrage de Louis Figuier, dont Claudine Cohen nous a montré également une illustration. Elle est aussi représentée dans le discours savant, jusqu'au début, je dirais, des années 1870. On peut songer aux travaux d'Édouard Larté à Aurignac ou aux travaux d'Émile Rivière dans les grottes des Baussets-Roussets. Là, on est en 1872, pour l'homme de menton. En fait, je dirais qu'il a fallu, donc revoilà notre ami Mortier, il a fallu la constitution de cette archéologie évolutionniste entre 1870 et le début et la fin du 19e siècle, donc le début du 20e, pour infléchir radicalement ces conceptions et les méthodes qui les sous-tendent. Alors cette archéologie, donc on l'appellera évolutionniste, elle est portée en Angleterre par les travaux, par exemple, de Charles Lyell ou de John Lubbock, qui sont tous deux proches de Darwin. Elle est incarnée en France dans la classification industrielle de Gabriel de Mortier. Et on peut aussi considérer que l'évolutionnisme culturel, qui est formalisé dans le domaine de l'anthropologie par un auteur comme Edward Burnett Taylor, par exemple, structure l'ensemble des sciences de l'homme autour d'une notion transversale, qui est la notion de type, comme a pu le rappeler Alain Schnapp. je vais très très vite, et ce que je présente est assez caricatural, mais grosso modo, les choses sont en place de cette façon. Et c'est donc dans un paysage intellectuel mouvant, marqué donc par la remise en cause de ce cadre conceptuel évolutionniste, que le débat sur l'art pariétal est lancé, et cette fois-ci par éruption d'un objet d'étude entièrement inédit dans la discipline. Et dès le départ, alors le site orné, comme on va l'appeler aujourd'hui, pose un problème d'intégration dans ce que j'appellerais le processus de validation des découvertes. C'est un processus qui est élaboré par l'archéologie préhistorique depuis le milieu du XIXe siècle, puis qui a été collectivement normé par les congrès internationaux d'anthropologie et d'archéologie préhistorique à partir de 1865. Alors, dans ma présentation, je ne vais pas revenir sur les arguments scientifiques du débat, je vais m'attacher, comme vous allez le voir, aux acteurs, aux institutions, aux pratiques, à la sociabilité aussi, afin de retracer, finalement, dans une optique d'anthropologie des sciences, les modalités suivant lesquelles cet objet d'étude inconcevable que constitue l'art pariétal, inconcevable pour l'homme de la fin du XIXe siècle, ou pour le préhistorien de la fin du XIXe siècle, donc comment cet objet d'étude va parvenir à s'intégrer à une connaissance en pleine refonte. Donc là, on a un élément nouveau qui fait irruption dans une discipline qui est en train de complètement changer, complètement basculer. Donc effectivement, la situation n'est pas, je dirais, la plus facile. Je vais donc chercher à préciser comment ce débat sur l'art pariétal, en fait, négocie en permanence avec le protocole de validation pour finalement se soumettre au verdict de la communauté scientifique. Et donc, comment la constitution de ce nouveau domaine de recherche va par la suite accompagner... Alors, j'avais appelé ça le rééquilibrage de la communauté des préhistoriens. On pourrait dire aussi, va accompagner un déséquilibre intégral de la communauté des préhistoriens au début du XXe siècle, en tout cas, on va dire en France et en Espagne. Bon. Alors, le débat sur la... Alors, on va reprendre la chronique... mais je vais essayer de la présenter de façon différente par rapport à celle où on la présente d'habitude, je dirais. Après, vous allez recroiser beaucoup de choses que vous connaissez, voire même par cœur. Donc le débat sur l'art pariétal, il est lancé par les observations réalisées en 1879 à Altamira par Marcelino Sanz de Sautola, vous le savez. Donc l'année suivante, en 1880, celui-ci publie une étude globale sur la grotte, notamment l'Altamira, qu'il explore depuis 1875. C'est donc le célèbre Breves a Puntes, etc. Je ne vais pas plus loin parce que j'ai un horrible accent espagnol. Donc ce Breves a Puntes, les figures pariétales, comme vous le voyez, sont présentes, mais finalement, elles constituent à la fois une découverte inédite et elles font partie intégrante d'une étude archéologique. Alors Sautola, il va donc chercher à faire connaître ses observations et il va donc chercher à les soumettre à la validation de la communauté scientifique. C'est ça la première, enfin la première étape, c'est je publie, et la deuxième étape, c'est je vais chercher l'aval de mes pairs. Et pour cela, eh bien, il y a une personne qui constitue évidemment le relais tout désigné, c'est Émile Cartaillac, qui depuis 1869 dirige la revue des matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme. Et c'est une revue en français, mais qui à l'époque a une audience internationale et qui constitue à la fois un organe de diffusion, mais aussi un organe de validation. C'est un peu le Nature et le Science de l'époque. Bon. Vous passez dans les matériaux, c'est bon. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Donc Sautola, il envoie son mémoire à Cartaillac, accompagné, comme vous le voyez, par une gentille dédicace. Et en fait, on sait que cet envoi va se solder la venue sur place d'un autre acteur qui est Édouard Harlé, qui va aller à Altamira, et la publication en 1881 dans ces mêmes matériaux d'un article entièrement à charge qui va établir les preuves indubitables de la non-contemporanéité du matériel archéologique et des peintures pariétales. Parallèlement, autre acteur, je passe un peu rapidement, c'est Juan Villanova y Piera. Lui, il est paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Madrid et c'est lui qui va relayer les démarches de Sautola. Et pareil, il va choisir un médium qui n'est absolument pas innocent, qui est exactement celui vers lequel il faut se tourner. C'est le Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. Et cette fois-ci, c'est celui qui se réunit à Lisbonne en 1880. Et une fois de plus, la communication est accueillie avec hostilité, puisqu'elle ne sera même pas intégrée à la publication des actes. La seule trace que gardent les actes de la communication de Villanova y Piera, c'est... Voilà, ce sont les quelques lignes que vous avez à l'écran. Alors, là, donc, par ailleurs, l'offre de visite ne sera pas davantage honorée, et notamment Cartaillac ne se rendra jamais pendant le XIXe siècle à Altamira. Alors, il faut ici rappeler que l'examen in situ des sites comme des collections est véritablement solidement et anciennement implanté dans la pratique préhistorienne et profondément associé à l'établissement de la preuve. Alors, on peut penser à ce qui s'appelait à l'époque le voyage d'Abbeville, qui est pratiqué dans les années 1850 par des chercheurs français, des chercheurs anglais, et également à un autre type de pratique qui est les fouilles dites de vérification. On a vu quelques images dans la présentation d'Alain Benex. Mais ces fouilles de vérification, c'est un événement mondain, comme Alain nous l'a montré, mais c'est pas que ça. C'est vraiment également le moment où le Congrès va venir régler sur place une question. Et notamment les congrès internationaux. Et en fait, c'est vraiment un examen, c'est presque un lit de justice qui se déplace sur le terrain. Et ça nous montre bien que c'est cette science du XIXe siècle, cette préhistoire du XIXe siècle, on a pu dire qu'elle fonctionnait non pas sur le modèle du laboratoire, mais vraiment sur le modèle du tribunal. D'ailleurs, les questions scientifiques, après la visite, sont mises aux voix. On vote pour dire si l'observation est bonne ou pas bonne. Et effectivement, le Congrès de Lisbonne, en 1880, a inscrit à son programme une question à régler par une fouille de vérification. Et il s'agit de la question de l'homme tertiaire, donc l'anthropopithèque. Et le programme inclut effectivement une grande fouille de vérification sur un gisement qui s'appelle Ota, qui est près de Lisbonne. Et c'est un gisement qui avait livré des silex, possiblement travaillé dans des niveaux miocènes et pliocènes. Donc on voit bien que, en plus à la base, le congrès de Lisbonne était très 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 loin de la question de l'art pariétal. Il y avait vraiment, en gros, il avait une question à régler et c'était vraiment la question de l'homme tertiaire. Le gros du congrès, c'est ça. Bon, Villanova va ensuite présenter Altamira devant d'autres congrès, et notamment les congrès de l'AFAS, de l'Association française pour l'avancement des sciences, et on va voir que c'est l'AFAS qui va devenir le lieu récurrent d'examen de la question de l'art pariétal, et d'une certaine façon, ça va même se passer encore plus mal à l'AFAS que devant le CIAAP, puisque à Alger, en 1881, dans le congrès d'Alger, une lettre d'Émile Cartaillac qui va être lue en séance par Philippe Salmon, un élève de Gabriel de Mortier, va carrément dire qu'il y a sans doute eu une fraude à Altamira et que les peintures du plafond, le fameux plafond au bison, ont été faites très très récemment. En fait, si on s'intéresse à la correspondance entre le courrier entre Mortier et Cartaillac, on va voir que la conviction des deux est faite bien avant que Harley rentre d'Altamira avec ses propres conclusions. À cette époque, les deux auteurs sont donc Mortier et Cartaillac sont parfaitement en phase, et notamment sur la question de l'évolution humaine. Et dans cette conception-là, l'art pariétal n'a simplement pas de place, donc la question ne se pose pas en fait. Le débat n'a pas lieu. Deuxième vague de découverte, le milieu des années 1890. Et cette fois-ci, donc, le débat qui avait été évité avec Altamira va pouvoir se développer. Et il va emprunter à peu de choses près les mêmes lieux institutionnels, donc les congrès de l'AFAS, je vous l'ai dit, la revue L'Anthropologie, qui, après 1890, d'une certaine façon, est l'héritière des matériaux, puisque les matériaux arrêtent de paraître en 89, et l'anthropologie intègre entre autres les matériaux, plus la revue d'ethnographie et la revue d'anthropologie. Les éléments concernant ces trois découvertes vont être publiés dans différentes revues, essentiellement régionales ou nationales, parce que ces années 1890, c'est le moment où le débat, en gros, va se concentrer sur ces trois découvertes du sud-ouest, Dordogne, Gironde, Haute-Garonne, et va devenir un débat, pas un débat national au sens de l'affaire Dreyfus, mais un débat scientifique national, en tout cas. Et si on prend l'ensemble de ces communications et publications, on voit bien comment, petit à petit, les inventeurs des différents sites vont tenter de concilier le caractère inédit de leurs observations avec le protocole de validation auxquels doit se soumettre toute découverte préhistorique. En premier lieu, ils vont insister sur la mise en place d'un corpus cohérent. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de découvertes, mais elles sont toutes cohérentes et elles se répondent les unes les autres. Et en plus, ça évoque énormément Altamira. Et lors du congrès de la FAS de Saint-Étienne en 1897, Émile Rivière, donc le découvreur de la Moutte, va ajouter une pièce au dossier. Ce sera la grotte Chabot dans le Gard, dont les gravures avaient été signalées en 1889 par Léopold Chiron. Donc, on va dire, il y a une nouvelle grotte qui rentre dans l'échantillon, qui rentre dans le corpus. Deuxième élément, cette préhistoire du XIXe siècle, donc elle est fondée sur la constitution de collections. Ces collections, elles sont par définition mobiles, recomposables en fonction des besoins de la connaissance, et surtout, elles valent avant tout par leur caractère d'exemplarité. C'est-à-dire que la collection, elle est exemplaire et représentative de la préhistoire pratiquement mondiale. Dans ce contexte-là, la figure d'art pariétal, qui est à ce moment-là singulière, qui est également organiquement associée à son site, donc on ne peut pas emporter et faire voyager, mettre au musée ou vendre à des collègues ou échanger à des collègues lors de congrès, elle va demander des moyens adaptés à son étude et à sa diffusion. Et on va voir l'ensemble des chercheurs vraiment mettre en œuvre une grande diversité de techniques de relevé qu'ils vont mettre au point ou qu'ils vont adapter au milieu souterrain, qui est un milieu particulier. Ce sera le relevé à vue, le relevé avec calque, les estampages, des prises d'empreintes au plâtre, à l'argile, etc. Et bien sûr, la photographie, puisque celle-ci va être mise en œuvre à partir des années 1890, aussi bien par Léopold Chiron que François Dalot, que Émile Rivière. Et Dalot et Rivière, d'ailleurs, entretiennent une correspondance, entretiennent des échanges réguliers et se donnent des conseils sur comment réaliser une bonne photo, comment réaliser un bon estampage sans abîmer la paroi, etc. Donc l'ensemble de ces représentations, elle est évidemment diffusée via les publications, mais elle va également être diffusée en tant que support physique. Et par exemple, les moulages et estampages qui sont réalisés par Dalot à Pernompère vont prendre place dans les vitrines du musée de Bordeaux, mais également, plus intéressant pour nous, dans celle de l'exposition de l'école d'anthropologie, qui est organisée en 1900 dans le cadre de l'exposition universelle de Paris. Ça veut dire que l'art pariétal va rejoindre les collections de préhistoire et qui sont régulièrement présentées lors des expositions universelles depuis 1867, en fait. Et il faut rappeler que ces expositions et leur rôle a été véritablement déterminant sur la mise en ordre des connaissances, mais aussi sur la constitution et le renforcement de la communauté internationale des préhistoriens. Donc mettre de l'art pariétal dans une expo universelle, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Troisième pratique, c'est évidemment la pratique des visites sur place. Alors là, d'une part, évidemment, l'idée, c'est de mettre le collègue à convaincre en contact direct avec l'œuvre, mais c'est aussi, comme on l'a vu, recueillir un assentiment et finalement recueillir un argument d'autorité, c'est-à-dire que chaque visite qui se solde d'une certaine façon par une conversion ou une adhésion, hein, c'est les termes employés, finalement vient incrémenter le crédit qui est apporté à la découverte. Et une fois de plus, les découvreurs tiennent un compte assez précis des personnes qui viennent et qu'ils arrivent à convaincre dans l'idée que, en gros, quand on a coché toutes les cases, ben ça y est, c'est fait, la conversion est accomplie. Et en fait, on peut considérer qu'effectivement, à la fin du 19e siècle, la plus grande partie des préhistoriens reconnaît l'authenticité de l'art pariétal paléolithique, et y compris les détracteurs de la première heure, comme évidemment Émile Cartaillac ou Édouard Harlay. Et donc, quand notre troisième vague de découvertes arrive, on est en 1901, c'est les deux grottes des Aizis, les Combarets et les Fonds de Gomme, découvertes à quelques jours de distance. À ce moment-là, évidemment, en gros, c'est une découverte qui ne va poser pratiquement aucun problème. Et donc, l'année suivante, c'est une fois de plus dans le cadre d'un congrès de la FAS que la conversion massive et définitive à l'art pariétal de la communauté va être organisée et mise en scène. Parce que c'est bien, je pense, sous cet aspect, sous cet angle, qu'il faut envisager l'événement. C'est un événement qui va se dérouler en août 1902 entre Montauban et les Aizis, et dans lesquels deux personnes vont être particulièrement importantes, évidemment, ces deux Émiles, c'est Cartaillac et Rivière. Alors, on va s'attarder un peu sur Émile Cartaillac. Évidemment, il est important, puisqu'on l'a vu. C'est d'abord un des derniers survivants de la controverse des années 1880, avec Édouard Arlet. Arlet est toujours vivant. Et en plus, ça a été un personnage central dans le refus d'Altamira. Et c'est donc avec cette position qu'il va publier, plusieurs mois avant la tenue du Congrès, un article qui est demeuré célèbre, hein, c'est le fameux « Mea culpa d'un sceptique » qui est publié dans l'Anthropologie, donc une fois on a de plus le même média. Et moi je dirais que considéré uniquement d'un point de vue scientifique, bon l'article est compréhensible, mais son existence est totalement aberrante. Qu'est-ce qui lui prend à Cartaillac de faire ce truc-là ? Parce que si on se penche de près sur le parcours intellectuel de Cartaillac, ça c'est les résultats d'un point qu'on a fait et d'un article que j'ai rédigé avec Arnaud Hurel du Muséum national d'histoire naturelle, on va s'apercevoir que Cartaillac, en fait, se caractérise par une absence totale de dogmatisme. Donc là, il est diamétralement opposé à un Gabriel de Mortillet, et également par une refonte incessante de ses positions vis-à-vis des questions qui structurent la connaissance préhistorique. Parmi celles-ci, la question des sépultures paléolithiques, je passe rapidement, mais ça peut se retracer, ou la question de la classification des industries. Et si on se penche sur la correspondance que Cartaillac entretient avec le jeune Abbé Breuil à l'époque, donc on est au début du XXe siècle, eh bien cette correspondance, elle montre clairement que c'est Cartaillac qui va pousser Breuil à s'intéresser à l'Aurignacien et à refonder donc entièrement la classification du paléolithique, qui sera en rupture intégrale avec le modèle Mortillet. Et donc c'est là où c'est un des éléments du basculement de cette archéologie évolutionniste à une archéologie historico-culturelle. Donc le parcours scientifique de Cartaillac consiste d'une certaine façon à une réforme incessante de son savoir. Il y a la recherche d'un équilibre idéal entre un cadre théorique qui permet de poser les hypothèses et un regard sans cesse en éveil pour réajuster ce cadre et poser les bases d'une nouvelle démarche. En gros, Cartaillac a passé son temps à faire du mea culpa pour pouvoir avancer et a vraiment, lui, avancé dans ses recherches et fait avancer la discipline préhistorique. En fait, cette publication du mea culpa, c'est avant tout, peut-être même uniquement, un acte stratégique. C'est-à-dire que Cartaillac comprend très bien qu'il ne peut pas rester à l'écart de ces nouvelles perspectives, parce qu'en plus, elles viennent d'ouvrir. Elles ont une puissance de rupture absolument extraordinaire. La reconnaissance de l'art pariétal, c'est pas une avancée scientifique parmi d'autres. Elle n'a pas le même statut que l'établissement des sépultures néandertaliennes, qui sont des avancées scientifiques importantes, mais ça a un statut différent. Elle revêt un caractère symbolique particulier qu'il convient vraiment d'utiliser pour marquer l'entrée de l'archéologie préhistorique dans le XXe siècle. Alors, je ne dis pas que l'art pariétal fait entrer la préhistoire dans le XXe siècle. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pour les préhistoriens et Cartaillac le premier, la découverte de l'art pariétal a un statut tel que c'est avec ça qu'on entre dans le XXe siècle et qu'on va pouvoir se projeter et avancer. Et donc la victoire doit être confortée par un acte fort, un engagement personnel à haute valeur morale, et ce sera ou ça a été le mea culpa d'un sceptique. Et certains auteurs continuent à se faire avoir par cette valeur du mea culpa. Deuxième personnage, qui est vraiment le personnage clé du congrès de Montauban, c'est Émile Rivière. Il est président de la section, la 11e section, la section d'anthropologie, qui accueille précisément la préhistoire au sein de ce congrès d'avancement de la FAS. Et à ce titre, donc, il va participer activement à l'établissement du programme. Et on voit en fait que l'ensemble des grottes ornées françaises alors connues font l'objet d'une communication de la part de leurs découvreurs. Et on ajoute même une découverte toute récente, c'est la grotte de Bernifal, qui est découverte en 1902, peu avant le congrès de Montauban, donc peu avant le mois d'août, et qui fait l'objet d'une présentation, c'est presque une prise de date, hein, c'est une présentation très rapide, par Breuil, Capitan, Pironi. En fait, la seule grotte qui ne fait pas partie du programme, c'est la Moutte. Mais en fait, c'est parce que Rivière se l'est réservé pour l'excursion qui aura lieu les 14 et 15 août, et dans le cadre de laquelle il va faire visiter la Moutte à l'ensemble de ses collègues. Et on peut considérer effectivement que cette excursion, elle constitue véritablement l'acte majeur du congrès. Une fois de plus, c'est pas seulement un acte mondain, une promenade sympa entre collègues. Hein. C'est véritablement quelque chose d'un très important parce que bon, elle met en relation directe les sites et la communauté scientifique. Ça, d'accord. Ça permet à chaque collègue de venir vérifier sur place, mais surtout parce que à travers le compte rendu qui est rédigé par Rivière et qui est publié dans les actes. Et qui est complété par la photographie que vous voyez à côté, qui est prise par le propre fils d'Émile Rivière, et qui n'est pas publiée, la photo, dans les actes. Mais en revanche, Rivière va l'envoyer à pratiquement tous ses collègues, notamment à tous ceux qui sont sur la photo, mais à plein d'autres également. On voit bien donc que l'excursion, symbolisée dans ces deux éléments, marque véritablement l'acte de fondation dans lequel les grottes ornées de la vallée de la Vézère et la Moutte particulièrement se taillent symboliquement la part du lion. En fait, l'excursion, là, c'est plus une visite ou une fouille de vérification, c'est véritablement une mise en scène d'une conversion qui a déjà eu lieu à la fin du siècle précédent, donc il y a quelques années auparavant. Et donc le congrès ne s'érige plus en tribunal, mais plutôt, je dirais, en greffe d'enregistrement. Et l'idée, c'est de fonder un nouveau domaine de recherche. Et comme on est, alors, la FAS accueille régulièrement des chercheurs étrangers, mais comme on est quand même entre chercheurs français et entre chercheurs presque qui travaillent dans la vallée de la Vézère, on peut même poser éventuellement le fait que la recherche française est vraiment leader dans l'étude de l'art pariétal. Alors la première conséquence de la définition de l'art pariétal comme un domaine de recherche, ça va être évidemment la multiplication des découvertes, que ce soit en France ou en Espagne, puisque rapidement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère franco-cantabrique va se définir comme un bassin privilégié en termes de sites, mais aussi comme une zone intense d'activité pour les préhistoriens et bon, on va le voir rapidement, une zone de rivalité également. Donc au lendemain du congrès de Montauban, c'est vers l'Espagne que Breuil et Cartaillac se tournent, puisqu'ils se rendent à Altamira. Donc Cartaillac va à Altamira pour la première fois, et ils y vont pour un voyage d'études et de relevé grâce à une subvention qu'ils obtiennent auprès de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et c'est à Altamira que Breuil va mettre au point sa technique de relevé, en tout cas les grandes lignes de sa technique de relevé. Et c'est une technique qui cherche avant tout à communiquer l'impression ressentie face à l'œuvre, parce que pour Breuil, l'impression que lui a ressentie fait partie intégrante de la compréhension scientifique de l'œuvre. Voilà pourquoi il est important d'aller sur place et de voir les choses sur place. Une fois rentrés en France, les auteurs, dont Breuil et Cartaillac, travaillent à la mise au net des images. Ils vont faire quelques essais d'impression de planches chez Cervin à Toulouse, et ils vont commencer aussi à négocier la publication de leur étude dans l'Anthropologie. L'article n'est pas encore écrit, l'étude n'est pas encore rédigée, mais ils vont commencer à prévoir la publication. Et très rapidement, ils vont se rendre compte que la revue n'a absolument pas la qualité d'impression requise pour une telle publication, et par ailleurs que ça va être largement au-dessus de leurs ressources financières. Et c'est à ce moment-là que va intervenir un acteur qui va avoir évidemment un rôle décisif dans le développement des recherches sur l'art pariétal, mais évidemment c'est Albert Ier de Monaco. Celui-ci est approché par Cartaillac, qui va lui présenter plusieurs planches des relevés d'Altamira, et le prince, comme on l'appelle, est aussitôt conquis par ces images inédites. Il prend vraiment la mesure de leur potentiel scientifique et de l'apport que leur étude pourra constituer pour la connaissance de la préhistoire, parce que c'est en plus un domaine dans lequel il est investi depuis le début des années 1880. Alors, l'œuvre préhistorique d'Albert Ier n'a absolument rien à voir avec son œuvre océanographique, elle est, pour ainsi dire, infime, mais vue depuis le préhistorien, elle est, pour nous, elle est capitale, on va dire. Donc, Albert Ier va très rapidement définir un programme qui dépasse largement la seule publication de l'Altamira, puisque ce qu'il voudra, c'est un projet complet de recherche et de publication qu'il s'engage à financer entièrement. Et donc, celui-ci fait l'objet d'un projet de convention qui est soumis à Breuil et Cartaillac fin 1904 et qui prévoit, comme on le voit, la publication de sept volumes et intégrer différents auteurs, en plus de Cartaillac et Breuil. En fait, Les réalisations vont être légèrement différentes du projet initial, mais ce qui s'appellera le trust des cavernes, et donc le terme est employé dans la correspondance notamment entre Breuil et Cartaillac, avec absolument aucune connotation ironique, hein. C'est le trust des cavernes, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ce trust des cavernes va développer effectivement une très importante activité, au point qu'il va finalement définir une norme de recherche et de publication dans le domaine de l'étude de l'art pariétal. Il va donc être conduit à imposer une interprétation de l'art paléolithique et une esthétique particulière, qui sera celle des relevés de Breuil, au point que on avait vu tout à l'heure les premiers essais de photographie en milieu souterrain. Début 20e, la photo est pratiquement évacuée des ouvrages scientifiques sur l'art pariétal, parce que l'acte scientifique face à une œuvre, c'est le relevé, et c'est le relevé type Breuil. Donc l'activité débordante de Breuil, jointe aux moyens mis à disposition par Monaco, va effectivement assurer au Trust une position quasi hégémonique, dont vont pâtir un certain nombre de préhistoriens, et notamment Émile Rivière, qui ne saura pas faire fructifier ses efforts investis à la Moutte en 1902. En fait, à un moment donné, il est question qu'Émile Rivière entre dans le Trust, et finalement, pour diverses raisons, ça ne se fait pas, et Rivière est gentiment conduit vers la sortie. Comme on le voit, donc, les activités du Trust se développent de part et d'autre des Pyrénées, et assez rapidement, les relations entre chercheurs français et espagnols vont osciller entre collaboration et rivalité, parce que pour les préhistoriens espagnols, finalement, l'art pariétal va très rapidement constituer un enjeu national dans le cadre plus général d'une archéologie qui, à partir de 1912, va se doter de structures scientifiques, de structures administratives pour protéger et valoriser le patrimoine national. Alors, je vais arrêter ma chronique ici, et je vais essayer du coup de tirer un peu les fils de tous ces éléments, et je vais mettre, on va dire, en avant trois points qui sont apparus au cours de ma présentation. Pardon. En premier lieu, il faut peut-être répondre à l'interrogation formulée dans mon titre, donc la création du domaine de recherche art pariétal constitue-t-elle une révolution ? Alors, nous avons vu qu'elle participe à la mise en place de cette archéologie historico-culturelle, mais très franchement, alors honnêtement, les changements sont radicaux. Jean-Jacques Hulbin, ce matin, évoquait le vocabulaire mis au point par Gabriel de Mortier. Effectivement, on parle encore de moustérien, on parle encore de solutréen, mais le sens du terme lui-même n'a absolument plus rien à voir entre le moustérien de Mortier, de Borde, d'Éric Boéda ou d'autres personnes encore plus récentes. Donc de ce côté-là, il y a eu un vrai et profond changement, mais on pourrait malgré tout pas considérer cela comme une révolution scientifique au sens de la révolution copernicienne, enfin au sens où un historien des sciences comme Thomas Kuhn peut l'entendre. En revanche, on a vu que certains marqueurs signalent que pour les préhistoriens du tournant du XXe siècle, le développement des recherches pariétales n'est pas une chose anodine, ce n'est pas un débat de plus, une conquête de plus, je dirais, de la connaissance. On a vu le mea culpa de Cartaillac et le sens qu'on doit lui donner, on a vu l'engouement d'Albert Ier, et je dirais qu'au-delà de l'avancée scientifique qu'elle représente, l'ouverture de ce nouveau domaine de recherche, donc de l'étude des grottes ornées, enrichit véritablement socialement et symboliquement la science préhistorique d'une dimension nouvelle. Deuxième point, et c'est d'une certaine façon le corollaire du précédent, la grotte, on l'a vu, elle est attachée à la grotte ornée, mais toutes les grottes, mais bon, la grotte ornée est attachée à son territoire, on pourrait même dire à son terroir. Elle est dotée d'une forte charge symbolique, une forte charge émotionnelle, et elle va devenir rapidement un objet patrimonial de premier plan. Je l'ai évoqué pour la mise en place de la réglementation espagnole. Ça va se passer de la même façon en France début 20e. Et elle va jouer vraiment un rôle capital dans la création ou la réorganisation des institutions nationales d'études, de gestion, de protection du patrimoine, telles qu'elles vont se mettre en place dans les différents pays d'Europe pendant cette première moitié du siècle. On peut également percevoir, me semble-t-il, alors là c'est presque une hypothèse de travail, mais comment la visite de contrôle ou de vérification constitue en fait la matrice d'une médiation de la grotte ornée dans un continuum qui substitue le visiteur, puis le touriste, au savant, et j'ai l'impression qu'on passe sans solution de continuité de l'entre-soi, entre savant, à une parole qui est portée vers l'extérieur, ce qui accorde une fois de plus une utilité sociale à la grotte ornée, qui est symboliquement plus chargée que le site d'habitat ou la stratigraphie. Ça, c'est des éléments dont témoignent nos collègues guides qui vont passer de la visite d'une grotte ornée à la visite de la stratigraphie de la Ferracie. Mais, enfin, pour nous, les deux sont intéressants, et on voit bien leur intérêt, et pour un très grand public, les enjeux sont différents, et c'est aussi un acte différent quoi, de la part du guide. Enfin, troisième point, j'aimerais revenir sur le caractère irruptif de la figure pariétale. Alors, c'est vrai que nous, on est presque saturés avec en plus l'ouverture des facsimilés, donc il y a Asco, il y a eu Chauvet, bientôt Cosquer, le grand public finalement est saturé, ou s'il n'est pas saturé, on a un accès relativement facile à toutes ces images, avec en plus l'imagerie 3D, l'imagerie virtuelle, mais effectivement il faut imaginer Sahutola ou Breuil et Cartaillac entrant pour la première fois dans Altamira en 1902, ça a quand même dû être quelque chose de très très particulier. Et donc on a vraiment ce caractère irruptif de la figure pariétale dans la connaissance. Alors évidemment, il est largement fabriqué par le regard du préhistorien du XIXe siècle, par son impossibilité à trouver place dans le cadre conceptuel de l'archéologie évolutionniste, mais j'ai aussi essayé de montrer dans quelle mesure son haut niveau d'étrangeté va se révéler également dans la difficulté à intégrer le processus de validation qui constitue une démarche scientifique, mais qui constitue aussi, je l'ai évoqué à plusieurs occasions, un régulateur social de l'exercice de la science. C'est-à-dire que, en tant que nous tous, que préhistoriens de la fin du XIXe siècle, on a une pratique particulière, on a des méthodes de validation, et c'est uniquement en empruntant ce fil-là qu'on va pouvoir se mettre tous d'accord. Enfin, c'est évident, on fait la même chose aujourd'hui, mais les procédés de validation du XIXe siècle, ils sont particuliers, et j'ai essayé de bien vous les exposer dans ma présentation. Et donc, on peut dire que, à ce titre, la pratique des chercheurs des années 1890 sont vraiment révélatrices parce qu'elles montrent bien comment le débat progresse en essayant de ramener la figure pariétale dans le système général, la procédure générale de validation de toute découverte préhistorique. Finalement, une question au cœur du débat, donc. Et évidemment, l'art pariétal a-t-il une place dans la conception de l'homme paléolithique dans le contexte de l'archéologie évolutionniste? Mais la façon dont moi j'ai posé la question aujourd'hui, c'était l'art pariétal a-t-il une place dans la pratique du préhistorien avant 1902? Mais on peut aussi s'amuser et poser la question hors de tout contexte. Alors, finalement, est-ce que l'étude de l'art pariétal, c'est de la préhistoire, quoi, en gros, hein, voilà. Et alors évidemment, pour moi la réponse est oui, pour beaucoup de gens dans la salle aussi. Mais je pense qu'effectivement, si on réfléchit, si on s'amuse un peu à penser cette question impertinente, à défaut de non pertinente, comme un questionnement historique, elle va retrouver une pertinence parce que finalement, elle me semble pouvoir être appliquée avec profit à une histoire des recherches sur l'art pariétal tout au long du XXe siècle, où on a un certain nombre de tensions entre les préhistoriens, les historiens de l'art, d'autres domaines, etc. Et de façon plus internaliste ou réflexive, elle doit sans doute pouvoir nous aider aussi à prendre la mesure des enjeux de l'archéologie des grottes ornées, qui est, on va dire, telle qu'on la pratique aujourd'hui, et qui est ce qu'est devenu aujourd'hui l'étude de l'art pariétal. Voilà, je vous remercie.